Bonjour à tous. Toute cette semaine, nous déconfinons la culture et faisons voyager les idées en Europe avec des écrivains, des artistes et des intellectuels, nos voisins. Alors que la crise sanitaire n'épargne aucun pays de l'Union, comment réagissent nos démocraties? L'Europe en sortira-t-elle renforcée? Et la culture dans tout ça? Comment créer, rêver en temps de crise? Dernière grande table européenne de la semaine, donc avec le metteur en scène allemand Thomas Ostermeyer, directeur de la Schaubühne, la première de sa nouvelle mise en scène, La vie de Vermont-Subutex, d'après Virginie des pentes, initialement prévue au printemps puis décalée au mois de novembre, a encore été repoussée en raison de la crise sanitaire. Nous retrouverons ensuite l'historien britannique partisan du livre en 2016, Robert Toombs. Alors que les négociations entre la Grande-Bretagne et l'Union achoppent encore, le Brexit, une histoire sans fin. Voilà pour cette dernière grande table européenne de la semaine. À écouter tout de suite sur France Culture.
La grande table. Olivia Jesbert.
Nous allons aujourd'hui retrouver le metteur en scène allemand Thomas Ostermeyer. C'est lui qui dirige le théâtre La Schaubühne de Berlin depuis quelques années. Il vient régulièrement en France pour y présenter ses pièces, ses créations, avec sa bande totalement atypique de comédiens. Il fait revivre les grands textes du répertoire de Shakespeare à un répertoire plus contemporain aujourd'hui, comme les mots d'Édouard Louis qui ont récemment résonné en septembre au Théâtre des Abbesses à Paris, avec son adaptation de Qui a tué mon père d'Édouard Louis. Bonjour Thomas Ostermeyer.
Bonjour.
Bonjour, plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui pour cette grande table allemande tournée vers vous, vers Berlin, pour comprendre comment ça se joue en ce moment pour vous dans cette capitale berlinoise. Votre théâtre de la Schaubühne est fermé pour l'instant, pas de réouverture prévue avant janvier. Comment faites-vous vivre le lieu en attendant ?
Bah, pour le public, c'est en ligne, la programmation en ligne où on montre depuis déjà le fin mars, on montre des captations, des productions de la période de Peter Stein et notre période qui dure maintenant 20 ans. Et on a un écho assez extraordinaire à cette programmation en ligne. Et on répète encore des pièces dans la maison. Moi, j'étais en répétition pour Vermont-Subutex, Virginie des pentes. Et il y a Simon Stone et Simon McBurney qui sont en même temps en train de répéter des nouvelles productions.
Le mois dernier, vous avez, proposé, Thomas Ostermeyer, que les théâtres, tant qu'à faire, restent fermés tout l'hiver et rouvrent, en revanche, tout l'été, quand la crise sanitaire serait passée, terminée, une sorte d'inversion du calendrier culturel. Oui. C'est une proposition qui a été accueillie un peu froidement par une partie des acteurs du secteur culturel allemand, si j'ai bien entendu la rumeur qui venait de l'autre côté du Rhin. C'est un peu un problème sans fin de savoir comment s'adapter quand on est un grand lieu culturel en temps de crise, comment rebondir et s'adapter?
En vrai, on est maintenant dans cette situation parce qu'on vient d'avoir fermé depuis 5 semaines maintenant et on va rester fermé, qui est sûr, jusqu'au 10 janvier. Donc, c'est déjà 2 mois et demi. Donc, on est déjà dans la situation des théâtres fermés pour 2 mois et demi. Et moi, je proposais de fermer pendant 2 mois. Là, on est à 2 mois et demi. Moi, je pense, et je suis d'accord avec notre sénateur de la culture, Klaus Lederer, ça risque que ça va durer encore jusqu'au fin janvier ou fin février.
Et vous serez prêt à rouvrir dès que la possibilité vous sera donnée, hein?
On est prêt, mais on préférerait qu'on sache un poil plus tôt à quel moment il faut être prêt, parce que là, on se retrouve dans une situation où tous les 2 semaines, on doit se réadapter, on doit faire une toute nouvelle planning, une toute nouvelle programmation, qui est pour toutes les gens qui travaillent dans la technique, qui travaillent dans l'administration et aussi les artistes assez exigeant.
On parle beaucoup de la rupture du lien avec le public dans ces moments de confinement, de fermeture aussi des lieux culturels. Mais l'absence, le vide, est aussi pour ceux qui s'y sont trouvés hein, au théâtre. Metteurs en scène et comédiens, dramaturges, ouvreuses, techniciens, vous venez de l'évoquer. Un théâtre, c'est une équipe, c'est un collectif au-delà même de la notion de troupe, hein, Thomas Ostermeyer.
Oui, c'est une équipe, c'est un troupe. Et c'est assez difficile de garder l'esprit parce qu'on se retrouve dans une situation où moi, je suis demandé de mes collaborateurs à quel moment on peut rouvrir, à quel moment on peut reprendre les répétitions et tout ça. Mais je ne peux pas vraiment prendre les décisions parce que personne ne sait à quel moment on est dans une situation où on peut reprendre le travail.
Vous présentiez, Thomas Ostermeyer, en septembre dernier au Théâtre des Abbesses à Paris, votre adaptation de « Qui a tué mon père ?» d'Édouard Louis. Édouard Louis, justement, à propos du théâtre, on l'écoute.
J'ai détesté mon enfance, j'ai détesté grandir dans le village où j'ai grandi, j'ai détesté ma vie jusqu'à l'âge de 15 ans. Et c'est à l'intérieur du théâtre que j'ai échappé à ça, c'est le théâtre qui m'a accueilli, c'est le théâtre qui m'a dit « t'as le droit de jouer des rôles ». C'est bien de jouer des rôles, tu vois. C'est aussi authentique qu'autre chose. Ça l'est peut-être même encore plus. Vous savez, il y a cette scène que j'adore citer, qui est une des plus belles scènes du monde, dans le film d'Almodovar, où Agrado est sur une scène et elle décrit toutes les chirurgies qu'elle a eues. Et elle dit alors, voilà, ma poitrine a coûté 40 000 pesos, mes joues 30 000, mon nez 10 000. Et Agrado dit, tout ce plastique, c'est mon authenticité, parce que c'est ce que j'ai voulu moi. Et c'est pour ça que c'est authentique. Et moi, c'est un peu banal de dire ça, sans doute, mais quand même, le théâtre, c'est ce qui m'a permis de penser ça. En fait, mon authenticité, parce que c'est pas ce qui m'est tombé dessus sans choisir. C'est pas d'avoir été jeté au monde avec un nom que j'ai pas choisi, un sexe que j'ai pas choisi, une tête que j'ai pas choisi, un nez que j'ai pas choisi. Mon authenticité, c'est ce que j'ai envie de... C'est le décalage par rapport à ça, c'est ce que j'ai envie de créer.
Et pour vous, le théâtre, Thomas Ostermeyer, est-ce que vous diriez, comme Édouard Louis, que c'est peut-être justement dans ce décalage que réside votre attachement à cet art qu'est le théâtre, dans ce que vous avez trouvé d'authenticité de vous-même aussi dans cette envie d'y créer ?
Bah, d'abord, en écoutant Édouard, je me suis dit, moi j'ai toujours détesté le théâtre. étant spectateur, étant dans une salle, je détestais ce que j'ai vu sur scène. Ça a eu rien à voir avec ma propre vie, rien avec mes propres expériences. Ça a hurlé, ça parlait fort. J'ai pas bien compris pourquoi. Il n'y avait pas un lien avec la situation, il n'y avait pas de rythme. Donc, je me suis dit, si jamais je veux retourner au théâtre, il faut devenir metteur en scène moi-même et essayer de faire un théâtre qui s'attache à la réalité et en même temps qui a un certain rythme, un certain groove, un certain drive qui a à voir avec mon propre rythme, avec mon besoin d'être nourri de la musique, de mouvement, d'un certain, comme un certain animal. Sinon, le théâtre resterait mort parce que c'était pour moi complètement mort au début.
Édouard Louis, il fait partie de ce lien qui vous unit à la France, Thomas Ostermeyer. Vous avez créé avec d'autres, notamment Didier Héribon, Geoffroy de la Gannerie aussi, une sorte de petite communauté artistique avec une complicité évidente. En 2019 déjà, vous aviez adapté son texte « Histoire de la violence ». Vous avez repris aussi « Qui a tué mon père ?» comme vous aviez travaillé sur le retour à Reims de Didier Héribon. Qu'est-ce que vous avez gagné, trouvé de précieux dans cette collaboration avec Édouard Louis ?
C'est pas forcément et seulement Édouard. Ça a commencé avec Didier, qui a un lien très fort avec Édouard et qui m'a présenté à Édouard. Et donc, je me suis mis à lire ces textes. Et en même temps que j'ai adoré Retour à Reims de Didier, j'ai compris quelque chose sur moi-même. J'ai vu dans les textes d'Édouard une réalité qui d'ailleurs en Allemagne est pas forcément traité dans les textes de la littérature allemande. Donc j'ai vu un certain mouvement, je dirais même en France, qui n'existe pas en Allemagne, mais qui a besoin d'exister en Allemagne. Donc je me suis mis à monter les textes des copains français, quoi.
D'où le choix aussi de reprendre ces textes pendant le premier confinement, de les lire et de les faire diffuser à partir de l'achat au Buneux, ces textes de Édouard Louis, d'Annie Ernaux, de Geoffroy Laganerie.
Tout à fait. Et on était très heureux que pas mal de textes, donc entre autres le texte de Didier, était un texte écrit pour l'achat au Buneux, pour faire diffuser les pensées qu'il a eu pendant le confinement. On a publié le texte d'Annie Ernaux et c'était très important au moment du confinement.
Pourquoi ? Quel écho avec la période, avec ce moment ?
Parce que ils ont traité d'abord la question qui a à voir avec une époque qui date maintenant depuis 20 ans ou même plus, qu'on appelle le néolibéralisme, et qui a des effets sur les hôpitaux, sur les médecins. Et donc, on se retrouve dans cette crise, pas seulement à cause de Covid, mais aussi à cause des effets d'une politique néolibérale.
Oui, ils ont en commun d'avoir placé à la fois la question sociale, mais aussi la question de la cellule familiale, de la transmission au cœur de leurs textes et de leurs œuvres. Tous ces auteurs à qui vous avez redonné de la voix à travers l'achat au Buneux lors du premier confinement. Aujourd'hui, on regrette ici, nous, en France, de ne pas avoir pu voir la première de cette adaptation de Virginie Despentes par vous, Thomas Ostermeyer, La vie de Vernon Subutex. Mais en attendant, on va pouvoir faire résonner d'autres mots d'elle, si vous le voulez bien, on écoute.
Hallo, ich bin Sandra Bourdonnec. Ich spiele in die wunderbare Theaterstück von Thomas Ostermeyer, italienische Nacht. Und ich wollte etwas auf Französisch lesen. Wir haben uns entschieden für Les Jolies Choses von Virginie Despentes. Voilà. Elle a dormi toute la journée. Beaucoup de bruit dehors qui se mêle au sommeil. Réveillée par une engueulade, elle s'est levée, groggy, a jeté un œil dans la rue. Un homme voulant frapper une femme qui tenait un gamin dans ses bras. Elle l'insultait en évitant ses coups, puis s'est éloignée en courant. Le môme pleurait en tendant ses bras vers le père. Retourner se coucher. L'odeur des draps l'écœurait très vaguement. Le soleil venait cogner contre ses paupières closes. Le téléphone dans la pièce d'à côté a sonné très régulièrement. Des tentacules de voix entrent par le répondeur. Puis le jour ne filtrait plus à travers les doubles rideaux. Elle s'est levée pour manger quelque chose. Sourde et pure hostilité.
Bonjour, je m'appelle Sandra Bourdonnec, je joue dans La nuit italienne de Thomas Ostermeyer. Je voulais vous lire un texte en français et on s'est mis d'accord sur Les jolies choses de Virginie Despentes, Thomas Ostermeyer. Il y a Les jolies choses de Virginie Despentes et il y a les vôtres. Alors l'époque, elle paraît un petit peu sombre aujourd'hui, mais sur quoi vous mettriez-vous cette étiquette de jolies choses aujourd'hui ?
Ah, des jolies choses, c'est la réflexion pour moi et la lecture. Moi, j'ai prend avantage d'avoir un poil plus de temps pour réfléchir au métier, pour réfléchir au théâtre et pour me nourrir des textes philosophiques et aussi des textes de théâtre que j'ai envie de monter, de mettre sur scène. Donc pour moi, il y a des jolies choses.
Il reste des jolies choses, il y a des jolies choses à mettre en avant et qui vous nourrissent aujourd'hui. Vers quelle lecture vous êtes-vous tourné ces dernières semaines ? Vers quels auteurs ?
Encore et plus profondément les textes de Virginie, parce qu'on a monté le premier volume de La vie de Vernon Subutex. Et là, je m'attaque à lire encore une fois le deuxième, le troisième livre. Et je réfléchis peut-être à monter à un moment donné la deuxième partie. mais aussi je lis pas mal de textes qui traitent la question du racisme, parce que c'est une question assez importante dans ce moment. Alors, je lis des textes là-dessus. Et bien évidemment, comme toujours, les nouveaux textes de Geoffroy de Langannerie, par exemple, L'art impossible, les textes de Didier, entre autres. Donc, pas mal de choses à faire. Mmh.
Virginie Despentes, c'est l'auteur de Baise-moi, de King Kong Theory. C'est une féministe radicale aussi dans son approche de la question féminine et de la sexualité féminine qu'elle aborde dans ses romans. Vernon Subutex, c'est sa trilogie dont le premier volet était sorti en janvier 2015 et qui raconte aussi la crise d'une génération rock. Vous avez choisi donc d'adapter ce premier tome avec une première qui était initialement prévue à Berlin le 7 mai dernier, la vie de Vernon Subutex façon Thomas Ostermeyer, qui devait aussi arriver en France. Comment vous avez choisi, vous, de mettre en scène ce texte? Est-ce qu'il était urgent, important d'en garder un peu la folie débridée, justement, ce côté très rock'n'roll?
Oui, pour moi, le côté rock'n'roll était fondamental, était la côté la plus importante, parce que ce n'est pas seulement une génération fondée sur la musique, mais aussi une génération qui a cru d'être un peu un contre-culture, avec aussi des questions politiques, un certain côté anarchiste. Et donc tout ça, avec le développement de la société, risque de partir, de ne plus exister. Donc pour la soirée, je décidais de travailler avec un groupe de musique qui est sur scène et qui est on dirait un tiers de la soirée, c'est un concert de rock, un concert de post-punk, on a essayé de créer la soirée à partir.
Ah, on vous a perdu, Thomas Ostermeyer, quelques instants. On va vous retrouver. Ah voilà, ça y est, on vous a retrouvé. Pardon, vous avez pensé la soirée, vous disiez
De l'esprit de la musique, qui est fondamental pour moi dans ce texte.
Alors, on va faire aussi vivre cet esprit de la musique, mais du cinéma qui va avec, à travers un tout autre répertoire, un autre registre, si vous le permettez. Je vous propose de repartir dans un conte bien connu, adapté par Jacques Demy, C'est peau d'âne.
La situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments. Mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa. Un prince, une bergère peuvent bien s'accorder quelquefois, mais une fille et son père, c'est ma foi, un échec assuré, une progéniture altérée. Mon enfant, il vous faut oublier à présent démoralisant, et vous rencontrerez un charmant va-nu-pied ou un prince mendiant. Mais de grâce, oubliez cet hymen insensé. Mon enfant, la vie vous offrira ses présents, mais il vous faudra auparavant vous conformer au plan que j'ai conçu pour vous savamment. Mon enfant, ne craignez pas les égarements. Je vais vous éclairer brillamment. Je vais vous protéger, j'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracé. Mais de grâce, écoutez, j'ai tout manigancé.
Peau d'âne de Michel Legrand, adaptation de Jacques Demy. C'était il y a 50 ans déjà, le film. Un anniversaire que la Cinéthèque a choisi de fêter, la Cinémathèque des réalisateurs, cette plateforme indépendante qui va rendre le film disponible avec de nombreuses interviews en bonus. L'occasion aussi de vous dire que Peau d'homme et non pas Peau d'âne, cette bande dessinée parue chez Glénat, Dubert et Zanzim, cette fable historique et cette revisitation du conte adapté par Jacques Demy vient de remporter 4 prix dont celui de la critique, et puis aussi le prix RTL, le prix Wolinski Le Point et le prix Landerneau. Cette bande dessinée sera par ailleurs en compétition à Angoulême en janvier, à glisser peut-être sous un sapin de Noël.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Avec nous, le metteur en scène allemand Thomas Ostermeier. Il est par ailleurs le directeur de la Schaubühne à Berlin. Souvent, il traverse les frontières pour venir jouer avec ses comédiens, mettre en scène, montrer ses pièces en France ou ailleurs en Europe. Il y a toujours un besoin d'adaptation, hein, d'ailleurs, quand on passe d'une pièce pensée, comme ce sera le cas avec votre adaptation de Vernon Subutex, de Virginie Despentes, pour la France. Comment ça se passe? Vous changez de comédien et vous jouez avec des comédiens français, ou vous venez au contraire avec vos comédiens, ceux qui ont répété, travaillé cette pièce avec vous à Berlin, et vous profitez de cet outil magique qui s'appelle la traduction, le surtitrage?
Oui, la plupart du temps, quand on joue en France, c'est la version allemande avec des sous-titres français. On a fait pas mal des expériences plutôt positives. Le public parisien, le public français est habitué à regarder des pièces sous-titrées. Donc, pour l'instant, il y a pas de souci là-dessus.
Mais quand les textes, Thomas Ostermeier, sont des textes d'auteurs français, ouais, comme Virginie Despentes, comme Édouard Louis, ouais, comment vous les, oui, jouez en français à Berlin, ou vous les traduisez en allemand?
Non, quand je par exemple, le texte « Qui a tué mon père ?» monté par moi avec Édouard Louis sur scène, on va le jouer en français à Berlin, sous-titré en allemand. Et pour le cas de Virginie Despentes, il n'existe pas encore une version française avec des acteurs français. Peut-être ça se fait en un jour, mais pour l'instant, il y a des plans pour montrer cette production de la Schaubühne avec les comédiens français à Paris. Mais il y a des extraits français. Je travaille avec une actrice française à Berlin. Je travaille avec une actrice qui va parler anglais. Donc, le Vernon Subutex, il y a de l'allemand, il y a du français et il y a de l'anglais sur scène.
C'est ce qui fait de vous un artiste européen, vous pensez, Thomas Ostermeier, cette capacité à jongler, à passer d'une langue à l'autre, à faire travailler aussi des comédiens de tous les pays d'Europe, de l'Union européenne?
Pour moi, c'est une évidence, puisqu'à Berlin, c'est très international. Il y a beaucoup de Français qui habitent maintenant à Berlin. Il y a beaucoup des étrangères de partout dans le monde. Et la plupart du temps, quand on a des dîners ou quand on voit des amis chez moi ou avant le Covid dans les restaurants, ça parle anglais une grande partie du temps. Dans mon équipe, ça parle français puisque je travaille avec Sébastien Dupuis, qui est le vidéaste et très important pour mes spectacles. Le musicien Nils Ostendorf, il est moitié français, moitié allemand. La femme de Sébastien Dupuis, elle fait le décor et les costumes. Donc, elle parle français aussi. Alors qu'on se retrouve pour préparer un spectacle, de temps en temps, ça parle français tout le temps.
Et vous croyez à cette idée de culture commune? Si tout va bien, parce qu'aujourd'hui on commence toutes nos phrases ainsi, Thomas Ostermeier, si tout va bien, on vous retrouvera aux Gémeaux à Sceaux pour Démon de Lars Norén au début de l'année 2021. Est-ce que sur cette pièce-là aussi, ce spectacle en allemand, surtitré en français, traduit du suédois, est-ce que l'esprit de révolte soufflera aussi sur cette pièce ?
Ça, c'est plutôt une pièce de chambre, une pièce qui traite la question sur la famille bourgeoise et l'ennui et le désespoir dans une vie d'un couple qui, au bout d'un moment, devient une nuit assez violente. Avec les voisins qui viennent faire visiter ce couple. Ouais, il y a aussi un côté politique dans cette pièce-là, mais c'est plutôt une pièce de chambre psychologique. Mais on va aussi montrer « Jeunesse sans Dieu » de Horvath après les démons aux Gémeaux.
Voilà, ça ce sera Jeunesse sans Dieu du 16 au 21 mars, si tout va bien. Et au Gémeaux à Sceaux toujours, d'abord Démon de Lars Norén du 9 au 14 février. Merci mille fois à vous, Thomas Ostermeyer, d'avoir été avec nous pour clore cette semaine culturelle européenne. Merci et à très très bientôt.